Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Comme vous l'entendez, nous ne sommes pas dans l'ambiance cosy d'un studio parisien, mais au cœur de l'agitation musicale d'un événement culturel d'envergure, le Festival International de Jazz de Montréal, où se produisent chaque été les meilleurs instrumentistes de l'épopée des musiques noires, et notamment cette année, le bluesman James Cotton, 80 ans, le bassiste Stanley Clarke, le saxophoniste Wayne Shorter, 81 ans, le pianiste sud-africain Abdoulaye Ibrahim, 80 ans, etc., etc. Nous avons voulu nous plonger dans le patrimoine afro-américain cette semaine dans l'épopée, en rencontrant diverses personnalités qui ont marqué l'histoire du jazz ou ont œuvré pour la préservation de cet art majeur né des rythmes africains et des mélodies européennes. Notre premier invité s'appelle Harold Mayburn. Il est pianiste, originaire de Memphis, Tennessee. Il a 79 ans et a connu toute l'histoire du jazz en jouant aux côtés de Miles Davis, Sonny Rollins, Lionel Hampton et quelques dizaines d'autres pointures de la musique populaire américaine. Le 30 juin 2015, il se produisait à l'Upstairs Club de Montréal, où nous l'avons rencontré alors qu'il préparait sa prestation du soir, durant laquelle il a interprété des extraits de son nouvel album, Afro Blue. Quelques notes d'Afro Blue de Mongo Santa Maria par Harold Mayburn, qui a invité de nombreuses personnalités sur son dernier album, dont Gregory Porter. Bonjour Harold Mayburn.
Hello, thank you.
Votre carrière est incroyable. Vous avez partagé la scène avec les plus grands, Lionel Hampton, Miles Davis, Sonny Rollins, Wes Montgomery, Sarah Vaughan, Joe Williams et tant d'autres. Est-ce que votre nouvel album Afro Blue est une manière de renouer avec la grande tradition que vous avez connue dans les années 60?
Well, I try to. Well, this concept was came about because Paul Stash.
J'essaye en tout cas. Le concept de cet album est né d'une idée de Paul Stash, le propriétaire du Smoke Club à New York, qui voulait que j'enregistre un nouveau disque avec des chanteurs et chanteuses, comme je le faisais au Birdland il y a 50 ans, en compagnie de Betty Carter, Johnny Hartman, etc. C'était très particulier pour moi de reprendre cet exercice d'accompagnateur, car autrefois je ne soutenais qu'un seul artiste. Aujourd'hui, ils sont 6 sur mon album. Je pense cependant que nous avons fait du bon boulot, car chacun a un timbre vocal spécifique et nous avons enregistré sans répétition au préalable. Nous avons dû nous autoriser seulement 2 prises par chanson.
50 ans nous séparent des années 60. Quelle est la différence majeure entre cette époque lointaine et aujourd'hui ?
Well, how can I say this with the sound like a put down?
Comment puis-je vous répondre sans paraître condescendant? Disons que dans les années 60, nous nous intéressions davantage à la profondeur d'une œuvre, plus qu'à la qualité technique de l'interprète. Vous avez aujourd'hui de jeunes instrumentistes qui sont techniquement irréprochables, mais qui n'ont pas d'âme dans leur jeu. Il faut apprendre à tous ces jeunes le respect pour les anciens, pour qu'ils sachent honorer le patrimoine que nous leur léguons. Les jeunes d'aujourd'hui sont impeccables dans leur maîtrise de l'instrument, mais il leur manque de la substance.
But the substance is a little lacking at times, you know.
Vous êtes originaire de Memphis, Tennessee. Pourquoi avoir quitté cette ville très musicale pour vivre à New York?
J'ai certes quitté Memphis, mais avant d'aller à New York, je suis passé par Chicago. J'avais d'ailleurs comme élève la chanteuse Didi Bridgewater, qui est originaire comme moi de Memphis, Tennessee. Son père était notre chef d'orchestre et m'a appris beaucoup de choses, ainsi qu'à mes camarades George Coleman, Booker Little, Louis Smith et Isaac Hayes. Une fois à Chicago, je voulais entrer au conservatoire, mais j'ai échoué. Ma sœur m'a alors conseillé de rester malgré tout à Chicago, où j'ai appris la musique dans les clubs. Écumer les écoles de musique ne fait pas forcément de vous un grand virtuose. Cela vous expose davantage, c'est tout. Bref, j'ai donc quitté Memphis pour Chicago, où j'ai réellement appris la musique dans la rue.
C'est finalement, comme vous le dites, l'école de la rue qui vous a appris à jouer du piano. Et quand vous parliez de substance tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est en apprenant sur le tas qu'on devient un excellent musicien.
Right. 24 hours a day, you know, music was around the clock, and that's how you really learn because.
Tout à fait, la musique épousait ma vie 24 heures sur 24. C'est ainsi que l'on se forge un vrai apprentissage. L'un des plus grands pianistes du XXe siècle, qui a d'ailleurs influencé Ahmad Jamal, s'appelait Errol Garner. Ce monsieur n'a jamais pris de cours et pourtant personne ne joue comme lui. Chicago est une ville cosmopolite qui nous a permis de jouer tout type de musique, dont le blues. C'est un genre musical qui paraît simple, mais personne ne peut vous enseigner le blues. Le fait d'écrire les notes ne suffit pas, il faut ressentir le blues pour savoir le jouer.
You can write it down, but it's not the same, it has to come from here.
Choisir New York, c'est une manière de fuir la ségrégation raciale.
En partie, oui, car à Memphis, la ségrégation existait au quotidien. Nous avions le droit de jouer de la musique à condition qu'elle soit issue de notre culture noire. Nous jouions donc du jazz, du bebop, mais c'était très contrôlé. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ont choisi Chicago, Détroit ou la Californie pour pouvoir s'exprimer. Personnellement, j'ai choisi Chicago car c'était la ville la plus proche de mes aspirations. Je n'ai jamais été agressé en tant que noir naguère, mais nous devions nous conformer aux règles, s'asseoir au fond du bus, boire dans les fontaines réservées aux Noirs. Nous n'avons pas été blessés physiquement, mais nous devions suivre les règles.
Si vous étiez resté à Memphis, seriez-vous devenu un pianiste de blues ou de soul music?
Well, that's a good question because I'm glad you asked it because right now I tell people I'm a blues piano player that understands the philosophy of jazz.
Voilà une bonne question. Je suis heureux que vous me la posiez car je ne cesse de répéter que je suis un pianiste de blues qui a appris la philosophie du jazz. Je serai toujours un musicien de blues comme bon nombre de jazzmen. Dizzy Gillespie disait souvent, Charlie Parker savait jouer le blues comme personne. Charles Mingus regrettait de ne pas savoir jouer le blues comme Duke Ellington. Le blues a longtemps été mal considéré, mais c'est un langage musical qui est connu dans le monde entier. Le grand Gene Harris disait parfois, je suis un bluesman avec des connaissances techniques. Je revendique donc mon statut de pianiste blues capable de jouer du bebop. J'évolue ainsi dans les deux mondes.
I'm a blues piano player with technique. So the blues, so I'll always be a blues piano player who can play the bebop tune. So I got the best of both worlds.
Quels sont les grands musiciens qui vous ont marqué en jouant à leur côté?
Well, coming up, the most underrated pianist that ever lived, I mean the most underrated, who could play the blues, his name was Phineas Newborn Jr. The most underrated by far, so I used to watch him.
Pour moi, le pianiste le plus sous-estimé s'appelait Phineas Newborn Jr. Je l'ai regardé jouer jadis et je peux vous le dire, il savait jouer le blues. Malheureusement, on lui a reproché de jouer trop de notes, d'être un artiste sans âme et sa carrière s'est brisée net. Quelques grands musiciens l'ont malgré tout soutenu. Je pense à Ahmad Jamal, Hank Jones, Tommy Flanagan et même Oscar Peterson. Lors d'une interview en Suisse, Oscar Peterson avait déclaré que ses deux pianistes préférés s'appelaient Art Tatum et Phineas Newborn Jr. Il faut marteler le nom de ces héros, même quand on vous charrie, il faut affirmer ses convictions.
Art Tatum, Phineas Newborn Jr. Nobody's like Phineas, but they broke his spirit. And see, that's where I can't allow them to break mine. You got to rise above that. Because if they say, I can't, I say, yes, I can.
Je vous propose, Harold Mayburn, de vous écouter aux côtés de Lee Morgan dans un enregistrement de 1965.
Oui, ça s'appelait The Gigolo. Monsieur Wayne Shorter, qui participe également au Festival Jazz de Montréal cette année, était en studio avec nous à cette époque. L'enregistrement existe et restera dans l'histoire. Wayne Shorter est un génie du 21e siècle. C'est un être d'une rare humilité qui ne se vante jamais, un peu comme Coltrane d'ailleurs. Ce disque est donc l'un de mes préférés. Bob Crenshaw et Billy Higgins faisaient aussi partie de cette aventure. C'est un sacré enregistrement conduit par Lee Morgan, qui était un géant de la musique, comme vous le savez.
Lee Morgan, The Gigolo. Lee Morgan et Harold Mayburn en 1965 sur l'album The Gigolo, c'était il y a pile 50 ans. Quel souvenir gardez-vous de cet enregistrement, Harold Mayburn?
Je me souviens qu'il restait une dernière composition à enregistrer et Lee Morgan nous a dit « Les gars, improvisons quelque chose ». Et il a écrit un arrangement à la dernière minute. C'était « You go to my head ». L'atmosphère en studio est quelque chose d'essentiel. Produire un disque peut parfois être difficile car pour obtenir un bon résultat, vous passez des heures à réenregistrer et une tension entre musiciens peut se faire jour. Surtout lorsqu'on réalise que la première ou deuxième prise était finalement la bonne. Mais quand vous parvenez à réaliser un bon album, comme ce fut le cas avec Lee Morgan, vous êtes le plus heureux des hommes.
Quand on a joué comme vous avec des géants comme Miles Davis, Sonny Rollins ou Lionel Hampton, est-ce que tout ne paraît pas plus fade après de telles expériences?
Well, it's never for me because I feel blessed to be able to play something that I love doing. We all do. We love what we do. We would do this without being paid. If we could have the rent paid.
Vous savez, je me sens béni des dieux de faire ce que j'aime. Mes musiciens aussi. Pourquoi voulez-vous que nous regardions dans le passé avec nostalgie? Nous serions prêts à jouer gratuitement tant nous aimons notre métier. Nous sommes des passionnés. Je ne m'ennuie jamais. Je ne suis jamais fatigué quand je suis sur scène. Je pourrais jouer toute la nuit. Regardez Roy Haynes. Il a 90 ans et il continue à jouer. Hank Jones a joué jusqu'à l'âge de 92 ans les études de Chopin. Wes Montgomery passait ses journées à l'hôtel à répéter quand nous étions en tournée. Quant à John Coltrane, il allait se coucher avec son saxophone. Plus vous apprenez de votre instrument, plus vous conservez cet appétit de jouer.
You know, so that's dedication. So the more you learn, the more you realize you don't know, and that keeps you motivated to do more.
Miles Davis disait d'ailleurs à John Coltrane, enlève de temps en temps ton saxophone de ta bouche.
Take the horn out your mouth. I get to the point, I don't know what to do. Take the horn out your mouth.
Je l'entends encore lui dire, enlève ton saxophone de ta bouche. Miles Davis avait trouvé les mots justes.
À bientôt 80 ans, est-ce que vous pensez avoir la responsabilité de transmettre votre savoir à la jeune génération?
La seule chose que je pourrais dire à la jeune génération, c'est respecter vos aînés, essayez d'apprendre de ceux qui vous ont précédés. Soyez humbles comme le fut John Coltrane, faites vivre la tradition du jazz. Bien évidemment, tout semble avoir été joué, les Herbie Hancock, Chick Corea, McCoy Tyner, Keith Jarrett, Cedar Walton, Bobby Timmons. Mais j'aimerais que la jeune génération s'empare de ce patrimoine-là et salue les anciens pour perpétuer notre tradition. Heureusement, nous avons des petits jeunes comme Eric Reed, Geoff Keyser, Donald Brown, Benny Green, Steve Davis, Eric Alexander qui vont dans le bon sens. C'est la raison pour laquelle ce sont de bons musiciens. Ils respectent ce que nous avons créé, nous les anciens.
They are very respectful musicians. You know, that's why they play the way they do. Because they know the importance of the people that came before them. You see.
Et c'est la raison pour laquelle vous jouez avec eux d'ailleurs.
Il n'y a pas de fossé entre les générations dans mon groupe. Notre petite contrebassiste est une enfant à mes yeux, mais elle est attentive et compétente car elle respecte la tradition. L'âge n'a aucune importance.
Est-ce que Afro Blue, votre dernier album en date, symbolise ce passage de flambeau ?
Je le pense car nous avons fait appel à 5 jeunes chanteurs et chanteuses qui m'ont prouvé qu'ils savaient s'adapter à mon jazz. De toute façon, il n'y a pas qu'une seule façon d'interpréter le jazz. Dans mon esprit, il y a 2 types de musique, la bonne et la mauvaise. J'ajouterais qu'il y a aussi la musique pour les imbéciles. Après tout, un mauvais enregistrement, vous pouvez toujours essayer de l'arranger. Mais la musique d'ascenseur restera de la musique d'ascenseur. Il faut avoir une vraie ouverture d'esprit, quel que soit le style de musique, jazz, pop, rock, rhythm and blues, peu importe. Une bonne musique restera une bonne musique. L'avantage des jazzmen, c'est que nous sommes capables d'adapter tout type de composition et de nous les approprier.
Sur votre nouvel album, vous avez invité Norah Jones, Gregory Porter, Kurt Elling, les nouvelles voix d'aujourd'hui. Mais j'aimerais vous entendre, Harold Mayburn. Est-ce que vous nous joueriez quelques notes sur ce piano mis à disposition par le Festival de Montréal ?
My pleasure, and honor. Thank you so much. This is Afro Blue by arrangement.
Ça a l'air si facile.
Thank you. Well, 63 years I've been learning how to try to do that.
Eh bien, ça fait pourtant 63 ans que j'essaie de jouer ce titre correctement. J'apprends constamment. On peut parfois penser être un artiste aguerri, mais c'est se mentir à soi-même. Art Tatum passait ses journées à répéter. C'est la raison pour laquelle vous avez le sentiment d'entendre 2 pianistes quand ils jouent. Il ne faut jamais être satisfait. J'en avais parlé avec Ahmad Jamal. Je lui avais dit, vous n'avez plus besoin de répéter aujourd'hui. Vous êtes un maître. Et il m'a répondu, l'amour s'entretient, votre amour pour la musique aussi. Le basketteur Michael Jordan a passé tout son temps à s'entraîner pour être le meilleur. Quelle que soit votre discipline, vous devez rester professionnel.
Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview à Aaron Melbourne. C'était un vrai honneur de vous rencontrer.
My pleasure and honor. Thank you so much.
Bobby, Benny, Jimmy, Lee, Boo, Un extrait du dernier album en date d'Our Mayburn que nous avons été enchantés de rencontrer ici à Montréal. Dans quelques instants, c'est la chanteuse Molly Johnson que nous accueillerons, le temps d'un nouveau point sur l'actualité. A tout de suite.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer.
It don't mean a thing.
Nathalie Laporte.
If it ain't got that swing.
Jigida, kani jigi misenya, omani kobena.
L'épopée des musiques noires.
It's okay. You know, it's okay.
Ah, merci.
On est au Festival de jazz international de Montréal.
Oui, c'est un festival international de jazz qui est ici depuis plus de 25 ans. Et qui est un des gros événements de l'été au Québec.
On y voit toutes sortes de musiciens qui viennent de partout dans le monde pour faire des spectacles, autant le jour que le soir. C'est ça.
On profite de l'été ici, parce que c'est pas long. Alors, ça dure que 3 mois, et c'est le moment où les gens sortent dehors en T-shirt et se promènent et festoient et mangent bien et font la fête.
I'm from Sacramento, California. Actually, I came to see Mademoiselle, and the jazz festival was going on. We wanted to come down and listen to a little good jazz.
Montréal, c'est au sud de la province de Québec, dans ce pays que nous appelons le Canada. En ce moment, c'est le Festival international de jazz, alors il y a plusieurs concerts extérieurs, donc beaucoup de tourisme, beaucoup de visiteurs qui viennent de partout dans le monde pour entendre des musiciens de calibre international.
On écoute le jazz et c'était excellent.
Chaque fanfare qu'on a vu est très talentueux et la musique est très bien.
On a du blues, on a du jazz.
On a tous les types de jazz, jazz progressif, jazz classique. C'est ici un festival où il y a beaucoup de nouveaux talents qui sont découverts.
Il y a beaucoup de différentes nationalités qui participent et il y a beaucoup de différentes nationalités qui viennent voir les spectacles aussi.
Moi, c'est juste l'ambiance que j'aime beaucoup ici. Tout le monde est pas mal « friendly », comme on pourrait dire. Là. Puis c'est plaisant. Au fil des ans, là, ça a évolué beaucoup parce qu'il y a plusieurs scènes à cette heure. Au tout début, il y avait, mon Dieu, 4-5 scènes, des petites scènes, puis c'était pas mal juste le soir. Il n'y avait aucune animation dans la journée, tandis qu'aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts. Là.
Moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et je suis résident ici. Il faisait beau, bon, j'ai dit je vais faire un tour au centre puis, et voir comment ça se déroule aujourd'hui. Parce que l'été cette année, c'est vraiment retardé. Donc quand il fait beau, il faut en profiter. Parce que j'aime beaucoup la musique, jazz comme reggae en général. Et le festival, j'aime vraiment qu'il y a beaucoup de monde. Il y a vraiment la festivité du festival. Parce que le monde vient de partout du monde pour venir assister à ça. Donc ça fait vraiment vibrer la ville. On aime ça parce que l'hiver est rigoureux ici, les gens ne sortent pas. Quand il y a festival déjà, tout le monde en profite, tout le monde sort pour profiter du soleil parce que le soleil est rare ici en hiver, comme vous le savez. Là. C'est ça. Et il y a quelques années, il y a Tiken Jafakol qui est déjà venu, et puis il y a Boris Kandi qui est déjà venu. Oui, pour le festival, j'avais assisté à ça. Le grand concert, quand Boris Kandi se produit, là, c'était un grand concert vraiment.
Comme vous l'avez compris, nous sommes donc à Montréal cette semaine pour la 36e édition du Festival international de jazz qui accueillait le 28 juin dernier la chanteuse canadienne Molly Johnson qui présentait son nouvel album Because of Billy en hommage à Billie Holiday.
Treats me oh so mean. My man, he don't love me. Treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen. He wears high draped pants, stripes wears hydrate pants. Stripes are really yellow. But when he starts to love me, he's so fine and mellow. Love will make you drink and gamble, make you stay out all night long. Love will make you drink and gamble, make you stay out all night long. Make you do things that you know is wrong.
Quelques notes de Fine and Mellow pour accueillir la chanteuse Molly Johnson. Soyez la bienvenue sur notre antenne. Thank you for being with us today.
Oh, thank you so much for having me.
Nous allons évoquer avec vous la personnalité fascinante de Billie Holiday, à qui vous rendez hommage sur Because of Billie. C'est un sacré défi quand même de chanter ce répertoire-là, non?
Non. The songs are very well written.
En fait, non. Ces chansons sont si bien écrites, ce sont de si belles compositions, que je parviens à les interpréter avec beaucoup de respect. Je suis très attentive à l'histoire et à l'impact d'un répertoire. Tant que je reste honnête et respectueuse de ce patrimoine et des auteurs de ces grands classiques, je ne ressens pas de pression particulière à l'idée de suivre les pas de Billie Holiday.
Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans cette aventure musicale-là précise ?
It was the anniversary of her birth, and I have sung many of these songs or other songs similar.
D'abord, c'est l'anniversaire de sa naissance qui a suscité ce disque. Et puis, j'avais au fil des années interprété maintes fois les mélodies célèbres de Billie Holiday. Beaucoup de gens me disaient « Vous chantez comme Billie Holiday ?» Et moi, je répondais systématiquement « Non, je chante à cause ou grâce à Billie Holiday. » Je suis le fruit d'une génération d'artistes qui a vécu le mouvement des droits civiques et qui m'a transmis ce privilège de pouvoir vivre ma vie pleinement. Pour moi, cet album est une révérence à une époque, à mes aïeux et à Billie Holiday en particulier. À travers ce disque, j'essaye de récolter un peu d'argent en reversant mes droits d'auteur à diverses associations caritatives qui contribuent au bien-être d'enfants dans le besoin. Billie Holiday n'a pas eu d'enfance. Elle est devenue adulte trop tôt. Elle n'avait pas de famille. Elle s'est débrouillée seule dans la vie. J'ai donc pensé que le fait d'apporter du bonheur à des gamins aurait bien plu à Billie Holiday, qui en fut si souvent privée.
Quelle image avez-vous de Billie Holiday ? Une battante, une victime, une figure du passé ?
I think she was a bit of a punk rocker before we had that phrase, before we had that term.
Je la vois un peu comme une punk des années 40, bien avant que ce mot soit inventé. Je pense qu'elle était d'abord la victime d'une époque, mais elle n'était pas résignée du tout. Elle gérait sa carrière et sa vie personnelle avec courage. Elle osait prendre la parole à une période où exprimer son opinion était dangereux. Elle a pris des coups, elle a subi des pressions policières, mais elle s'est battue. Elle n'était certainement pas une victime.
Quelle est la chanson la plus difficile à interpréter de Billie Holiday ?
It's not so much that it's difficult, but that it's extremely powerful and.
Ce n'est pas la difficulté qui m'anime, c'est la force expressive d'une chanson. Ce sont des paroles que l'on n'interprète pas sans réfléchir. C'est le cas de Strange Fruit. C'est une œuvre qui est entrée dans l'histoire grâce à un message puissant que je tiens à interpréter en respectant fidèlement l'intention et la structure des mots et des notes. Je n'essaie pas d'incarner Billie Holiday. J'essaye de donner du sens à ces paroles qui sont tellement limpides. Il n'y a pas de solo dans ce titre, juste des couplets cinglants que Billie Holiday chantait, sans s'interrompre. Elle avait même le culot de chanter cette chanson quand le propriétaire du club le lui interdisait. C'était une provocatrice, en avance sur son temps, une rebelle. Ce n'est pas le genre de chanson que l'on interprète chaque soir en tournée. Il faut sentir si le public sera réceptif à cette œuvre poignante. Ce n'est pas une chanson facile comme Now or Never. C'est une œuvre grave qui doit être interprétée avec la plus grande révérence et le plus grand respect.
Understand if they will be understanding of this song. It's not now or never, or, you know, something so easy and fun. It's very serious and should be sung with reverence and respect.
À quoi pensiez-vous justement en enregistrant Strange Fruits, aux années 30 ou aux années 2000, qui semblent un petit peu répéter le passé?
These songs. I tend to, of course, because I'm a modern girl, I just...
Comme je suis une fille moderne d'aujourd'hui, je chante, certes en respectant l'intention de l'auteur originel, mais j'ai toujours à l'esprit des images qui me rappellent ce que nous vivons actuellement. Il n'y a pas si longtemps, des Noirs étaient lynchés aux États-Unis, comme en Afrique du Sud. Et, comme on a pu le voir récemment, les violences raciales résistent malheureusement au temps qui passe. Mais le mouvement des droits civiques a toujours du pouvoir. Je vous rappelle que Barack Obama vient de signer un décret fédéral autorisant le mariage pour tous, sur tout le territoire américain. C'est un droit civique important qui honore l'Amérique. Cependant, j'ai toujours tendance à regarder dans l'avenir. Je suis attentive et j'interpréterai toujours mes chansons en y insufflant ce besoin de vivre qui ne quitte pas mon esprit.
Écoutons votre version de Strange Fruit, Molly Johnson.
Sodden trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar tree. Of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to sigh. For the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry.
Strange Fruit par Molly Johnson sur l'album Because of Billy, une révérence à Billie Holiday. 2015 marque le centenaire de Billie Holiday, mais aussi le cinquantenaire du mouvement des droits civiques. Est-ce que vous êtes une militante, Molly Johnson?
Certainly not compared to my parents.
Sûrement pas si je me compare à mes parents qui ont pris part au mouvement des droits civiques, car ils formaient un couple mixte, blanc et noir, ce qui était très mal vu à l'époque. Ils ont marché aux côtés de Martin Luther King. Puis, quand ils se sont installés ici, au Canada, ils ont emmené avec eux leurs convictions et leurs amis, des anciens vétérans du Vietnam, des membres des Black Panthers, des porte-paroles de la communauté noire, des musiciens, etc. J'ai donc grandi au milieu de ces gens engagés, dans une maison très politisée. Je crois donc aux droits civiques, mais face au courage de mes parents, je ne suis certainement pas une militante.
Chanter le répertoire de Billie Holiday aujourd'hui, c'est un acte politique?
Oui, bien sûr, c'est très politique de chanter les textes de Billie Holiday, et notamment Strange Fruit. Mais le simple fait d'évoquer le chemin que nous avons parcouru est une source d'inspiration intarissable.
Pourquoi avez-vous choisi d'honorer Billie Holiday plutôt que Bessie Smith, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan ou Betty Carter?
Billie's music speaks to me. It fits me very well. I'm very lazy. I don't like to work too hard.
Disons que le répertoire de Billie Holiday me parle profondément. Il me convient en tant que chanteuse. Et comme je ne suis pas très courageuse pour écrire des textes, je préfère me reposer sur des œuvres déjà composées. Et puis, Ella Fitzgerald était trop conformiste pour moi, sans aspérité. Sa voix était très jolie, mais sans rugosité. Cela dit, je reconnais qu'il y a eu de grandes chanteuses dans le passé, mais je me passionne pour celles qui ont écrit leurs propres chansons, qui ont pris leur destin en main. Peggy Lee est l'une d'entre elles. Je pense aussi à Dolly Parton. Certes, elle ne fait pas partie de l'histoire du jazz, mais j'ai aimé cette contradiction entre l'image de bimbo un peu nunuche dont elle jouait et l'intelligence réelle de cette artiste, qui est une sacrée femme d'affaires et compose divinement. Évidemment, je ne peux pas oublier Joni Mitchell. J'aime écouter les femmes qui ont un discours.
So I'm always interested in women and what they're saying and what they're speaking about.
En fait, si je comprends bien, vous aimez les femmes rebelles.
I like people with things to say about current.
J'aime les gens qui ont un avis et un regard sur leur quotidien et leur vie. Je rencontre beaucoup de jeunes chanteuses qui veulent faire carrière et je ne cesse de leur répéter: OK, mais qu'avez-vous à dire? Qu'avez-vous à me raconter? Si vous avez un discours, je vous donnerai des conseils. Sinon, devenez danseuse, ce sera aussi bien.
Then perhaps singing is the right thing for you, but if you really have nothing to say, maybe dance is better for you.
Molly Johnson, on ne l'a pas encore dit, mais vous soutenez les campagnes de lutte contre le sida. Quand vous êtes-vous engagée dans ce combat?
For me, it was the 80s. But even before that, my mother has done a lot of work in Africa.
C'était dans les années 80. Mais avant cela, ma mère avait travaillé sur le continent africain et revenait chaque fois à la maison, nous mettant en garde contre une maladie qui prenait de l'ampleur et qui ravageait le système immunitaire. Les malades maigrissaient à vue d'œil et cela l'alarmait. J'écoutais avec attention son récit et quand des années plus tard, certains de mes amis ont contracté le virus, j'ai compris que nous avions affaire à l'épidémie planétaire qu'évoquait ma mère. Malheureusement, nous n'étions pas préparés à ce drame sanitaire. Nous étions si ignorants à l'époque. Je pensais notamment aux plus jeunes qui devaient impérativement être informés et mis en garde. J'ai commencé à agir en leur parlant et en les invitant à mes concerts. La musique est un vecteur de transmission si puissant et si instantané que j'ai demandé à ce que mes prestations soient également diffusées à la télévision nationale pour toucher le plus grand nombre de citoyens. Cela nous a permis de récolter des fonds pour aider les personnes atteintes du sida au Canada et à l'étranger. Puis je me suis lancée dans un programme éducatif qui a ouvert les yeux des jeunes face au danger de mort de cette terrible maladie. J'ai ainsi éveillé les consciences en France, au Canada et dans le monde entier. Ce fut une expérience empreinte d'humilité qui m'a permis de transmettre un message qui survit aujourd'hui.
Est-ce que le fait d'avoir chanté pour Nelson Mandela a suscité votre engagement?
Well, we were asked to perform for Nelson. Many artists all over the world.
En fait, on nous avait demandé de chanter pour Nelson Mandela, lors de la campagne Free Nelson Mandela, qui appelait à sa libération immédiate et sans condition. C'était une initiative planétaire qui mettait la pression sur le gouvernement sud-africain pour faire sortir cet homme de sa prison de Robben Island. Quand il a été enfin libéré, il s'est fait un devoir de parcourir le monde pour remercier tous ceux qui avaient contribué à sa liberté retrouvée. Le Canada était l'un des pays signataires de cette fronde anti-apartheid. Et Mandela est venu nous saluer. C'est la première fois que je le rencontrais. Je l'ai revu plusieurs fois, mais cette première rencontre restera dans mon esprit à jamais. Je revois ce grand homme au large sourire qui donnait tant d'amour et de joie de vivre à ses contemporains. Je pense que cet état d'esprit lui a permis de résister durant toutes ces années d'incarcération. Il avait ce regard malicieux et une personnalité profondément positive que je garderai longtemps en mémoire. Je suis heureuse d'avoir pu converser avec ce grand monsieur. Il nous a appris ce qu'était le pardon. C'est l'un des enseignements de Mandela que nous devrions tous méditer pour avancer. Il a réussi à unir son pays à travers le sport, en faisant le pari insensé de fédérer les forces vives de la nation arc-en-ciel à la faveur d'une Coupe du monde de rugby. Mon père, qui était prof de gym, suivait cela avec moi et m'avait inculqué les valeurs du sport, l'esprit d'équipe, le rôle des supporters, etc. Mandela avait compris l'importance d'un tel enjeu. Il était vraiment très futé. J'ai adoré assister à cet épisode essentiel de la destinée sud-africaine.
And he really understood all those pieces and was a very smart man. I really loved watching that.
Molly Johnson, quelle chanson positive de Billie Holiday faut-il connaître?
Well, there.
Did you play, connaissez-vous cette chanson?
Now, baby, or never.
Bon, j'ai oublié les paroles. C'est mon drame quotidien. Je suis obligée d'avoir les textes des chansons avec moi sur scène, au cas où. Je reprochais à mes enfants de ne pas apprendre leurs devoirs par cœur. J'aurais mauvaise conscience aujourd'hui tant je suis incapable de mémoriser mes chansons. En tout cas, ça donnait quelque chose dans le genre.
It's either you stay or go. It's either say yes or no.
C'est une chanson dans laquelle Billie Holiday défie son homme. Elle s'intitule Now or Never. Qu'y a-t-il de plus puissant qu'une femme qui affirme ses convictions? Dans cette chanson, elle est une femme très déterminée.
Merci beaucoup, Molly Johnson, et bon séjour à Montréal.
Merci à vous. J'ai hâte de revenir donner des concerts en France. J'en rêve la nuit.
I dream about it. Ok, au revoir.
Hey there, Daddy, make up your mind, 'cause I've been waiting such a long, long time. Now, baby, or never, 'cause I've been so good to you. Now, baby, or never, 'cause I've been so lonesome too. Now, baby, or never, if I mean anything to you. Now, baby, or never, 'cause you've wasted so much time. Now, baby, or never, 'cause you can't make up your mind. Now, baby, or never, and it ain't no fault of mine. It's gotta be yes or no. It's either you stay or go. You can't leave me on the shelf. You gotta commit yourself. It's either you will, baby, or won't fall in love with me. I'm gonna call you once more on the telephone. I'll give you till 12 and I'll be gone. Now, baby, or never, 'cause I've been so good to you. Now, baby, or never, 'cause I've been so lonesome too. Now, baby, or never, if I mean anything to you. Now, baby, or never, 'cause you've wasted so much time. Now, baby, or never, 'cause you can't make up your mind. Now, baby, or never, and it ain't no fault of mine. It's gotta be yes or no. It's either
whether you stay or go, you can't leave me on the shelf. You gotta commit yourself. It's either you will, baby, you won't fall in love with me. I waited last night for you to call. You give me no consideration at all. It's now, baby, or never, 'cause I wasted so much time. Now, baby, or never, and you must make up your mind. Now, baby, or never, and it ain't no fault of mine. It's gotta be yes or no. It's either you stay or go. You can't leave me on the shelf. You gotta commit yourself. It's either you will, baby, or won't. You do, baby, or don't. Either you will, baby, or won't fall in love with me.
Now or Never, Billie Holiday, choisi par Molly Johnson, qui fut notre invitée dans l'épopée. C'est sur ce titre enjoué de Lady Day que nous allons nous quitter. Nous poursuivrons notre escapade à Montréal la semaine prochaine avec le bassiste Stanley Clark, que nous avons rencontré ici il y a peu et qui nous parlera de son épopée jazz funk trépidante. Merci à Médard Chablaoui pour son concours technique indispensable et merci à Nathalie Laporte qui a porté à bout de bras cette épopée transatlantique malgré un gros rhume. Il faudra demander l'année prochaine un budget mouchoir et sirop. D'érable, bien sûr, puisque nous sommes au Canada. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans 30 secondes, le journal. Ici Montréal, à vous Paris.